Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et le débrief de la tech avec nos experts ce soir. Marion Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Marion, merci d'être avec nous, journaliste et fondatrice de Hors Normes Média. C'est une newsletter alors tech et géopolitique, et notamment avec Pierre Aski, que l'on connaît tous, hein, qui connaît parfaitement tout l'univers de la géopolitique. Et j'imagine qu'en ce moment, il ne doit pas chômer avec tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. À tes côtés, Yacine Achiak, bonsoir.
Bonsoir.
Yacine, merci d'être avec nous. Tu es cofondateur PDG de Wizir. Wizir, c'est une interface, alors c'est dans la deep tech, et une interface neuronale homme-machine. Et d'ailleurs, ce sera intéressant parce qu'on parlera justement de ce qui est en train de se faire. Il y a les visions pro, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, les Neuralink. Enfin voilà, on aura ton expertise dans ce domaine. Et puis, Jérôme Marin. Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir.
Fondateur de la newsletter cafetech.fr. Je vais reprendre ce que disait François Sorel il y a 15 jours. Elle est bien gratuite. Inscrivez-vous, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la tech avec Jérôme Marin et sa lettre cafetech.fr. Alors, on va ouvrir le bal tout de suite avec Meta, avec des publications, donc Meta qui a ouvert la publication des GAFAM. Alors, on va écouter d'abord Anthony Morel, qui est journaliste à la rédaction de BFM Business. Il nous explique un petit peu pourquoi, malgré les très bons résultats, le titre est en forte baisse, et parce que Mark Zuckerberg s'est un peu étendu sur les investissements qu'il comptait faire en IA, sur les investissements qu'il comptait maintenir dans le métaverse. Ça n'a pas franchement, les investisseurs n'ont pas franchement apprécié. Écoutons ce qu'on dit Anthony Morel.
En gros, le message, et Mark Zuckerberg, il est assez clair là-dessus avec les investisseurs. Ce qu'il essaye de faire passer, c'est que devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle, un, ça va coûter cher, et deux, ça va prendre du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ils ont musclé leur effort, j'allais dire, ils ont montré un peu leur jeu dans le domaine de l'IA ces derniers jours, Mark Zuckerberg et Meta. Ils ont lancé Llama 3, qui est leur moteur de langage. Ils ont intégré l'intelligence artificielle à Facebook, à Instagram, à WhatsApp. En tout cas, pour l'instant, aux États-Unis, ça va probablement arriver en France, mais ça va continuer et ça va coûter de l'argent. Les chiffres font un peu peur, c'est vrai. 35 à 40 milliards de dollars d'investissement cette année, même pour un géant de la tech, c'est une somme. Pourquoi ? Parce que il faut de la recherche et développement, il faut des serveurs, des infrastructures pour faire tourner l'intelligence artificielle, et ça va continuer. Alors, Mark Zuckerberg, ça ne l'inquiète pas du tout. Lui, il estime que la vie d'une entreprise, elle est faite de cycles et qu'il est dans la phase où il faut dépenser sans compter ou sans trop compter pour préparer les profits de demain ou d'après-demain. Et il explique que par le passé, ça a déjà été le cas plein de fois dans l'histoire de Meta, quand ils ont lancé les Reels, les vidéos courtes sur Facebook, quand ils ont lancé les Stories sur Instagram, quand on est passé d'un mode où on consultait Facebook sur son ordinateur à un mode purement mobile. On a oublié cette époque, mais tout ça, ça a été des périodes d'investissement massif dont Meta a récolté les fruits quelques années plus tard.
Alors Jérôme, les soirées se suivent et ne se ressemblent pas, puisque hier on avait Tesla qui annonçait des résultats un peu en berne, hein, 55% de ventes en moins, un bénéfice en berne, et puis l'action qui grimpait en flèche parce que justement Elon Musk, alors lui parlait d'IA, parlait de son modèle, un modèle d'entrée de gamme qu'il comptait sortir d'ici quelques mois, ça rassurait les investisseurs. Et là, on a Mark Zuckerberg, des bons résultats, hein, on a plus de 27% pour le chiffre d'affaires à 36 milliards et demi de dollars, des profits multipliés par 2, 12,4 milliards contre 5, un peu plus de 5 l'année dernière. On a quand même 3,24 milliards d'utilisateurs, alors sur tout l'ensemble, hein, WhatsApp, Instagram, Meta et puis Thread, il faut le compter là-dessus. Et pourtant, voilà, l'action chute de 15%.
Ouais. En fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'action de Meta, elle est décorrélée totalement des résultats financiers de Meta. Quand elle chutait il y a 2 ans, c'était décorrélé des résultats financiers. Quand elle a remonté depuis quelques mois, c'était aussi décorrélé des résultats financiers. Meta se porte bien, s'est toujours porté bien, il gagne beaucoup d'argent, la machine publicitaire tourne bien. Ce qui inquiète les marchés, c'est les investissements. Il y a 2 ans, c'était les investissements dans le métaverse, oui, où on dépensait sans compter et on se disait, en tout cas Wall Street se disait, quand est-ce que ça va porter ses fruits ? Aujourd'hui, Zuckerberg a répondu en disant, on va faire l'année de l'efficacité, ils ont licencié, ils ont limité les dépenses.
C'est près de 22 000 personnes.
Ils ont beaucoup licencié, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils ont énormément licencié. Et là, il arrive, il dit, finalement, maintenant, on va réinvestir. Et au lieu d'investir 35 milliards ou entre 30 et 35 milliards, on va dépasser jusqu'à 40 milliards de dollars l'année prochaine. Et surtout, l'IA, c'est des années. Voilà, il a très bien dit. Il a dit, c'est des années d'investissement et on ne sait pas quand est-ce que ça va porter ses fruits. Alors après, dans son intervention, il a décrit les modèles économiques. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mm-hmm. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que retient les marchés, c'est qu'en fait, il s'était un peu assagi Zuckerberg et là, mais il rouvre le portefeuille et il est prêt à redépenser beaucoup d'argent.
Surtout qu'hier, c'est Llama 3 hein, qui a été annoncé, qui est en open source. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le replay avec Alexandre Lebrun, qui est un ancien développeur IA. Il a travaillé sous les ordres directs de Yann Lequin. Il nous a décrit un peu tout le côté open source et pourquoi c'est important. Mais justement, open source, c'est ouvert. C'est pas censé, pour l'instant, rapporter de l'argent. Alors, il y a d'autres IA. Il n'y a pas que de l'IA générative. Il y a tout un tas d'autres IA. Ton regard là-dessus, Yacine ?
Moi, je pense que c'est bien ce qu'il fait. Je pense qu'on est à une période où on voit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle technologique. Il n'y a plus d'innovation sur smartphone. On a eu quelques wearables comme les écouteurs, comme les montres. Mais on arrive à la fin d'un cycle technologique et il y en a un nouveau qui s'ouvre. Et ce nouveau, il est porté par deux mots, par l'intelligence artificielle et par la réalité augmentée, ce qui sont effectivement les deux sujets principaux d'investissement de Mark Zuckerberg. Et les investisseurs qui ne sont pas contents aujourd'hui, je pense qu'il y a une vision très court-termiste de est-ce que je peux générer des profits à 12 mois, à 24 mois. En revanche, si jamais on veut se positionner, Meta en particulier, comme une boîte qui sera encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et je pense que c'est la vision de Mark Zuckerberg, il faut investir sur ces sujets-là. Et ils le font très bien, en fait. Il y a eu beaucoup d'essais, on a beaucoup critiqué le métavers, mais si on prend par exemple plus récemment les Ray-Ban Meta Stories, qui sont donc les lunettes qu'ils ont créées avec les caméras.
Ils viennent de sortir d'ailleurs la nouvelle version
exactement.
En intégrant de l'IA.
Exactement. Et en fait, ça marche très bien. En gros, je parlais récemment avec John chez Qualcomm, ils n'ont pas assez de chipsets pour pouvoir équiper l'ensemble de la demande qui est nécessaire sur ces lunettes-là. Donc, il y a des essais qui sont faits, on n'a pas encore trouvé le chemin exact, mais c'est sûr que s'ils n'investissent pas, ils seront à la ramasse. Et le fait d'investir, ça leur permet d'être toujours resté un peu en avance de phase par rapport à la compétition. Donc,
et les marchés, qu'est-ce qui le punissent alors, selon toi ?
Moi, je pense que c'est une incompréhension. Il n'y a pas forcément de vision sur ce qui est en train de se passer. Il y a peu de gens qui investissent à 10 ans, à 15 ans, et ça, on y reviendra après sur Mistral. Mais il y a peu de gens qui investissent aujourd'hui sur 10 ans, 15 ans. Les gens ont envie d'avoir des retours sur investissement à un an, deux ans,
puis,
cinq
puis
ans.
Après, puis après, il y a aussi. Et c'est vrai qu'on en parle plus souvent. D'ailleurs, ils en parlent. Je vous renvoie sur un podcast aussi, celui de BFM Bourse cet après-midi, où ils parlent justement des mécanismes boursiers. Hein. Il y a aussi ça dont il faut tenir compte. Voilà, il y en a qui, que ce soit Facebook, que ce soit Tesla, que ce soit un autre, ils sont en train de jouer. Alors, quand ça va toucher tel pic, je vends, j'achète. Il y a aussi ça hein, dont il faut tenir compte. Marion, toi, alors, comment tu vois Mark Zuckerberg qui a toujours réussi à, je vais pas dire rebondir, parce que finalement, oui, quand il y a eu l'histoire du mobile, on s'est dit tiens, il a raté le virage du mobile et puis là, il est bien reparti, parce qu'il a jamais vraiment chuté, donc faut pas dire qu'il ait rebondi. Il a progressé, il a eu quelques petits trous d'air, mais globalement, la stratégie est plutôt bonne.
Bah en tout cas, c'est l'homme qui représente Meta. Hein. Meta, je sais plus combien de salariés, mais c'est quand même un groupe assez gigantesque. Moi, je me rappelle très bien effectivement, et je suis tout à fait d'accord à ce que tu dis sur le virage technologique aujourd'hui que la planète est en train de prendre. Je me rappelle des premiers rachats, souvenons-nous de WhatsApp, Instagram, tout
WhatsApp,
ça c'était assez visionnaire.
On le disait avant l'émission avec Jérôme, WhatsApp moins aux alentours de 1 milliard de dollars.
C'est ça,
Instagram.
C'était énorme.
Instagram, pardon. Oui.
Instagram,
WhatsApp, c'était 19 milliards. Ouais,
19
Instagram,
1 milliard.
Donc, il a fallu quand même, j'imagine déjà à cette époque, convaincre les investisseurs qu'il fallait investir dans des apps, des features, hein, qui étaient quand même que des features au départ. Là, c'est différent. Là, je pense que tu as raison. Aujourd'hui, Meta, comme d'autres big tech, sont en train d'investir dans de l'infrastructure. Hein. Ils ont acheté énormément de stocks de chips. On est revenu sur l'infrastructure, la notion d'infrastructure web. Je ne sais pas si on peut parler d'un web 4 ou d'un. En tout cas, il serait intéressant de réfléchir à ce saut quantique dans l'étape en fait de l'ère connectée. Et c'est vrai que Meta aujourd'hui doit investir sur du long terme. Je dis pas que WhatsApp et Instagram n'étaient pas des investissements de long terme, mais le web social était déjà bouillonnant. Mmh. Et donc, c'était peut-être facile de dire aujourd'hui aux actionnaires, il y a un écosystème existant, il y a Apple, il y a les fournisseurs de devices, il y a des OS qui tournent bien, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Ça veut dire qu'il faut investir massivement sur des capacités de cloud, il faut investir massivement dans les chips, racheter des startups. Moi, je suis sûre que Meta va faire des acquisitions très rapidement, comme les autres d'ailleurs. Mmh. C'est la même chose chez Amazon, hein. C'est la même chose chez tous les big tech. Mais tous ces acteurs-là qui ont les moyens aujourd'hui de leurs ambitions regardent vers l'avenir, mais sur un temps beaucoup plus long. C'est comme ça que je le vois.
En plus, avec des business models un peu différents, parce qu'on peut dire que pour Amazon, avec son cloud derrière AWS, pour Microsoft, avec son cloud derrière, pour Google, avec son cloud, ils sont moteurs de recherche, enfin, ils ont déjà une solide assise. Bon, Meta a son chiffre à faire publicitaire, hein. D'ailleurs, ils l'ont dit, on a plusieurs applications IA, on est en train de travailler avec nos clients pour voir comment on va développer des choses pour eux. On le rappelle, hein, je l'ai dit en ouverture, mais 3,24 milliards d'utilisateurs plutôt actifs, on va dire. Hein, donc,
mais en fait, je pense que ce qu'il y a avec Meta, c'est que On vient d'une période où il y a eu le métaverse et ils ont tellement investi et ils ont perdu encore 3 milliards je crois de dollars ce trimestre dans le métaverse, la division Reality Labs, qu'il y a une sorte de méfiance en fait vis-à-vis de Zuckerberg, de dire oui.
Selon toi, c'est parce qu'il a prononcé le mot métaverse? Il aurait dit juste on va investir en IA et tout ça, il y aurait peut-être moins.
Je pense en plus le métaverse, il en a parlé, il a beaucoup parlé d'IA en fait.
Il continue. Ouais.
Et je pense que le vrai problème pour les marchés en tout cas, c'est qu'il a dit c'est des investissements, un plan d'investissement sur plusieurs années. Et en fait, ils n'aiment pas les marchés ça. Et vous l'avez très bien, il y a des stratégies court-termistes, mais il y a aussi le fait qu'on commence à se rendre compte que l'IA ça coûte cher en fait. Et que peut-être que dans la hype de ChatGPT et de tout, on n'a pas réfléchi à ça. Et les marchés n'ont pas réfléchi à ça. Et on a vu des actions qui ont augmenté très fortement. Et Nvidia, par exemple, est en chute libre depuis plusieurs semaines parce que l'IA, ça coûte très cher et que derrière tout l'engouement qu'il y a eu, il n'y a pas de business model encore vraiment qui marche.
Et ça coûte cher en techno et ça coûte cher, on pourra en parler aussi, en consommation d'énergie. On voit quand même pas mal de choses. Après, il y a autre chose que je lisais une analyse aussi qui disait, ils visent peut-être une croissance un peu plus au ralenti en Q2, avec sans doute que le mois d'avril a peut-être été moins bon en pub. La concurrence qui reste forte. Alors certes, TikTok est un peu chahuté, mais on voit les autres réseaux. Peut-être un petit signal aussi faible d'un projet qui est en train de un peu mieux marcher, c'est Threads. On a vu qu'aux États-Unis, alors il y a une étude qui dit que Threads est remonté au niveau en utilisateur actif de X, Twitter. Après, il faut voir que Threads est très lié avec Instagram. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que ceux qui postent sur Instagram ne savent pas qu'en même temps ça va sur Threads. Il y a un peu tout ça. Mais comment il faut voir la suite, Marion?
Alors, je rajouterais à ce que tu dis, que tu as tout à fait raison de citer un peu ces autres signaux parallèles. C'est que la presse américaine reporte aussi ces dernières 24 heures par rapport aux mauvais résultats. C'est pas des mauvais résultats, c'est un cours de bourse. Et un cours de bourse, on sait qu'il est volatile. Donc ça a été, souvenez-vous, Facebook a mal démarré.
Les profits, c'est 12 milliards. Là, ils sont en banque.
Exactement.
Et surtout, juste avant les résultats qui viennent de se passer, le cours de Meta était à son plus haut historique. On n'est pas non plus se tromper sur ce qu'on est en train de regarder.
Plus 42% en quelques mois.
Exactement. Non, ce que dit la presse américaine que je trouvais intéressant, c'est aussi tout l'écosystème, donc des big tech évidemment, c'est aussi apparemment les accords la nouvelle politique de confidentialité d'Apple qui déstabilise aussi le business de Meta et qui déstabilise le business d'autres acteurs.
Ça c'est un peu passé en fait, c'était en 2022 pardon, donc c'est un peu passé.
Mais ça rassure pas vraiment les investisseurs.
Je pense que c'est un peu passé parce qu'ils sont quand même réussi à passer outre et à reprendre une croissance qui remonte.
Mais c'est là où justement il y a pour moi une espèce de schizophrénie des investisseurs, c'est que d'un côté ils avaient peur de ça et de l'autre côté quand on leur dit maintenant on va avoir notre propre hardware, on va avoir nos propres objets, comme ça on s'affranchit d'Apple, il y a aussi une peur en fait. Donc qu'est-ce qui est vraiment attendu par le marché? Pour moi c'est assez peu clair.
Et tu parlais justement, Yacine, des lunettes. Donc là aujourd'hui c'est alors on se souvient de l'époque Google Glass, là on est vraiment, ils ont signé Ray-Ban, donc c'est les Wayfarers, le modèle classique, enfin historique de Ray-Ban, auquel, alors avant c'était juste pour filmer, prendre des photos, là ça y est on commence à mettre un peu de multimodal, d'intelligence artificielle, on va regarder un monument, hop on va pouvoir le Meta, dis-moi quel est ce monument, il va nous raconter l'histoire. Enfin, là, je trouve qu'on est en train de franchir une étape.
Mais on en revient encore une fois à cette histoire de Meta essaye plusieurs choses. En fait, on est en train de regarder. Personne ne comprend vraiment ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir y arriver, il faut tester. Donc, on a une stratégie qui consiste à dire, je vais faire des toutes petites lunettes avec des caméras. Et avec ça, j'aurai une expérience très réduite, principalement basée sur la voix. Et ça va marcher. Je vais aussi faire un casque, le Quest 3, qui va être un casque de VR avec une très bonne résolution.
Que je vais ouvrir d'ailleurs à d'autres.
Que je vais ouvrir, que je mette à un prix qui est achetable par la majorité des utilisateurs. Et là-dessus, je vais me différencier d'un Apple qui, lui, tente une troisième voie, qui est de dire je vais construire un objet qui est un objet qui est avec une qualité de ce qui peut se passer dans 5 ans, une qualité de résolution qui est incroyable, mais que je mette à un prix qui est complètement
$3,500,
impossible à acheter. Et je pense que ça prouve juste que la direction, on la connaît. Par contre, le chemin pour y arriver est encore un petit peu à clarifier. Et Meta, pour moi, c'est pour ça qu'ils font les bons choix. Ils font les bons choix.
Surtout qu'il faut rappeler qu'il avait sa bras droit, Sheryl Sandberg, qui est partie il y a quelques mois et qui vraiment, elle voulait changer de vie et qui était quand même une de ses âmes pensantes. Donc il doit reconstituer un peu ses équipes. Il y a des gens avec qui il est depuis pas mal d'années, en qui il a confiance, mais quand même, faut que les gens autour de soi se renouvellent ou soient renouvelés. Quoi.
Mais je ne sais pas si c'est pour le coup une erreur, parce que Sheryl Sandberg, c'était la croissance du modèle de publicité. En gros, c'était la croissance du modèle traditionnel. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir Andrew Bosworth, maintenant, qui est CTO et qui, lui, pour le coup, a toujours incarné une innovation assez forte, je pense que c'est plutôt positif pour la boîte. Le fait d'avoir un Michael Abrash aussi, qui est directeur du Reality Lab Research, d'avoir Yann Lequin. En fait, on a quand même des têtes pensantes assez fortes avec des visions long terme. Le fait d'avoir des chercheurs qui sont à ces positions aussi critiques, c'est pour moi, ça, encore une fois, c'est peut-être qu'ils se trompent, peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai le sentiment qu'en fait, c'est la meilleure stratégie qu'ils ont pour, dans 10 ans, 15 ans, être encore une boîte qu'on peut considérer comme une des boîtes les plus importantes dans le monde. Quoi.
Jérôme. Juste ce qui était intéressant, donc quand hier il a commencé à parler, Mark Zuckerberg, donc l'appel téléphonique avec les analystes après les résultats, il a parlé que d'IA quasiment. Il a parlé d'IA, après il a parlé un peu de métaverse et Facebook, WhatsApp, Instagram, en deux secondes c'était fini, quoi. Tout va bien, on passe. Et donc vraiment, on a une entreprise qui est vraiment centrée sur l'IA, et vraiment l'IA c'est le maximum, mais c'est rigolo parce qu'il y a un an c'était pas le cas en fait.
Non. D'ailleurs, c'est l'IA qui a un peu coupé les ailes du métaverse. Au moment où il lance métaverse, bon, même si ça n'a pas embrayé derrière, tout d'un coup, pof, OpenAI est arrivé. Et alors là, ça a été un tel.
On en parlera peut-être tout à l'heure avec Apple, en fait. Apple, le Vision Pro, ils sont arrivés un peu en retard. Quoi. Ils sont arrivés au moment où il y avait l'IA qui est arrivé. Donc le Vision Pro, on en parle beaucoup moins.
Parlons-en, tiens.
Juste un dernier truc sur Zuckerberg. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans sa conférence, il a parlé des modèles économiques et comment ils veulent gagner de l'argent avec l'IA. Donc il a dit on va mettre de la pub dans les chatbots, on va permettre aux entreprises qui sont sur WhatsApp, sur Messenger, d'avoir des chatbots en IA qui vont donc nous payer pour ça.
Faire des petites vidéos courtes aussi, je crois.
Ouais, ça, c'est, ouais. Et après, il a le troisième truc qui était très intéressant, c'est qu'il a dit on va faire payer l'accès au modèle. Et donc le modèle open source sur lequel ils se sont bâtis pour l'instant, il ne va pas durer en fait. Et Mistral a fait la même chose en fait. Et donc ils ont dit les gros modèles qui seront les plus puissants, on va faire payer l'accès. Et donc c'est un peu un revirement un peu stratégique parce que justement l'IA ça coûte tellement cher que l'open source, c'est peut-être pas assez pour rentabiliser tous les investissements.
Surtout, et on en a parlé hier, hein, je vous renvoie encore au replay de l'émission d'hier, autour de l'open source. Là aujourd'hui, ce qu'on voit, tous les commentaires des développeurs qui testent, ils sont plutôt très très positifs autour de ce Llama 3. Vraiment, je te vois.
Non, mais parce que j'ai creusé un peu le sujet sur l'open source et j'écoute beaucoup d'experts d'open source et il y a un gros débat quand même dans la communauté. En fait, on devrait parler plutôt visiblement pour une grosse communauté des techniciens, d'open weight. Mm-hmm. En fait, c'est pas vraiment l'open source tel qu'on l'entend historiquement avec le code et la clé du code. C'est plus des poids, effectivement, avec des fichiers qu'on télécharge et qui sont effectivement, pour le coup, eux, open. Hein, donc, c'est plutôt de l'open innovation, finalement, que de l'open source, ce que fait Meta. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, voilà. Et clairement, c'est pour accélérer l'adoption. Aujourd'hui, il faut que Meta, comme d'autres, aille vers ces modèles, et Mistral aussi, ces modèles d'adoption, parce que c'est une course de vitesse, comme toujours, c'est une course de vitesse. La temporalité, elle est essentielle dans les sujets qui sont les nôtres. Donc aujourd'hui, plus on a de gens qui manipulent aujourd'hui du code, des algorithmes, des lignes de code et des modèles à construire, plus ça va aller vite, mieux c'est. Mm-hmm. Et tout le monde y gagne. Et juste un mot sur l'immersif, parce que je commence seulement à comprendre que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout le monde immersif et l'IA sont en fait un univers commun.
Complètement.
Et sa Meta, pour le coup, a eu une vision d'avance.
Complètement.
Et je ne savais pas, j'ai découvert un peu le sujet, j'avoue, volontiers, il y a quoi, l'année dernière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les communautés que construisait Meta autour de ses premiers casques, dans les univers virtuels, les premiers métaverses, étaient tout à fait cohérents avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Parce qu'il y a des décors qui sont recalculés, d'un nouveau genre.
Oui, tout à fait.
Alors, justement, tiens, on parlera de Mistral dans la deuxième, juste après 20h30. Apple, tu as abordé le sujet, les ventes du Vision Pro qui s'avèrent bien plus faible que prévu, mais quand on dit bien plus faible, c'est vraiment bien plus faible. Il y avait 200 000 précommandes lorsqu'ils l'ont annoncé il y a près d'un an, hein. Finalement les mois passent vite, on ne se rend pas compte, mais on va arriver bientôt à la première date anniversaire. Là le souffle retombe. Apple dit 400 000 commandes.
Enfin, pas Apple, l'analyse.
Oui, les analystes, pardon. Les analystes disent 400 000 ou 450 000 commandes contre 800 000 prévues. C'est quand même moitié moins. Alors certes, il y a ce prix, hein, 3 500 dollars. Il y a la machine aussi qui est un peu lourde à l'usage. Les gens étaient un peu déçus. Les applications aussi, voilà. Et puis, la communication d'Apple qui a été sur c'est pas un casque, c'est un ordinateur, donc vous allez faire plein de choses dessus, donc là encore il faut se positionner là. Quel est ton regard sur ça?
Ben, moi je pense que les chiffres, bon, qui vendent 800 000, 400 000, 1 million, Apple ils s'en fichent un peu en fait, c'est pas ça l'intérêt. C'est ce qui était important avec le Vision Pro, la première version en tout cas, c'était de lancer une dynamique, de montrer alors ce qu'ils appellent l'informatique spatiale, de dire on a un ordinateur sur les yeux et ça va changer la façon dont on travaille et dont on se divertit. Et ben finalement, ça fait quelques mois, il est sorti en février, si je ne dis pas de bêtises, oui. Vision Pro. On n'en parle quasiment plus, en fait. Et on est passé à autre chose. Et je pense que c'est le vrai échec du Vision Pro, en tout cas, pour l'instant, c'est ce côté-là.
Il a été rangé sur l'étagère.
Il n'y a pas d'excitation vraiment des consommateurs et même des développeurs. Aujourd'hui,
Il n'est pas en Europe. Hein.
Non, il n'est pas en Europe, il est que aux États-Unis. Mais il y avait récemment une étude qui est tombée. Il disait qu'il y a une semaine où il y a eu zéro application, de nouvelles applications sur l'App Store du Vision Pro. Donc il n'y a pas l'engouement qu'avait peut-être espéré Apple. Après, il y a le prix, il y a plein de choses qui expliquent cela. Mais je pense que c'est ça plus l'échec, plus que les ventes, en fait, pour l'instant, en tout cas.
Je pense que je me suis amusé à faire un peu quelques petites comparaisons pour essayer de comprendre si oui ou non c'était vraiment.
On rappelle, hein, tu as cofondé et tu présides WeSir, qui est pas dans les casques, mais voilà, qui est spécialisé en toutes ces interfaces homme-machine. Donc voilà, ce genre de projet t'intéresse particulièrement.
Ça m'amuse beaucoup. On a effectivement le Vision Pro au bureau avec lequel on joue un peu en ce moment. Mais donc justement, en fait, si on regarde, la comparaison qui m'intéressait, moi, c'était de me dire. En fait, le Vision Pro, on ne peut pas le comparer à l'iPhone. Ce n'est pas un marché qui est déjà mature dans lequel on va lancer un produit. Donc, la bonne comparaison, puisqu'on parlait d'ordinateur, c'est peut-être le premier ordinateur d'Apple. Donc, le premier MacBook qui sort le Macintosh, qui sort en 84. Et donc, en 84, il y a 7 millions d'ordinateurs aux US. Et dans le premier trimestre de vente après le lancement du produit, Apple fait 70 000 ventes. Très bien. Pour le Vision Pro, aujourd'hui, on a à peu près 20 millions de casques de réalité augmentée et réalité virtuelle aux US. Et ils font 200 000 ventes. Du coup, si jamais on compare, pour moi, en fait, ils sont sur la même tendance que ce qu'on pouvait observer à l'époque.
C'est pour ça que les chiffres, ce que dit Jérôme, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres.
Exactement. Et il y a un chiffre encore plus intéressant, c'est que le premier Macintosh coûtait 7 000 $ en dollars de 2023, 2 500 $ à l'époque.
C'est très cher. Hein.
C'est très cher, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment, là, on est en train de se rendre, pour moi, on est peut-être en train d'assister au lancement du Macintosh de la réalité augmentée, en fait. Mm-hmm. Et donc, partant là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le lancement du Macintosh était un échec a posteriori? Je ne pense pas. Est-ce qu'à l'époque, j'ai pas relu tous les BFM de 1984.
Les zéros informatiques, on en parlait.
Mais voilà.
Oui, c'est ça.
Exactement. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est toujours pareil. On a ces biais d'analyse, on a une tendance à vouloir tout regarder à un échéance très court terme. Et moi, ce que je vois quand même, c'est ça, c'est que ces grands groupes, ils sont en train d'investir massivement sur les technologies du futur. Et ça, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est eux qui vont le craquer? Je sais pas. Mais ils sont en train d'investir et ça montre bien qu'ils veulent être encore là dans 20 ans. Et ça, c'est la partie la plus importante.
Et moi, je pense beaucoup aussi, je me dis beaucoup que ça reste cher, mais que le Vision Pro, c'est un laboratoire aussi. Il y a plein de technos qui vont peut-être être très miniaturisés, qui seront sur des lunettes un peu comme les Ray-Ban, ils vont peut-être signer avec un autre lunetier, mais que là il y a quelque chose aussi, ils vont utiliser un peu toutes les technos qu'ils utilisent, peut-être les faire différents autres accessoires.
Bah, les deux trucs qui moi m'ont vraiment marqué, donc j'ai beaucoup utilisé dans les transports, dans l'avion, en gros ça c'est vraiment incroyable parce que vous travaillez en fait comme à votre bureau quoi, et ça c'est vraiment très cool, alors que sinon vous avez toujours la personne devant vous qui s'allonge, votre ordinateur qui est comme ça, c'est désagréable. Et la deuxième partie que je trouve vraiment très intéressante, c'est la capture de vidéo spatiale. Et donc là, en gros, en soi, il n'y a pas forcément d'innovation technologique, mais il y a une innovation de UX de la part d'Apple, où en fait, en gros, vous appuyez sur un bouton et d'un coup, vous prenez une vidéo. Et je l'ai fait, et en fait, je l'ai fait chez moi, je l'ai fait à différents endroits. Vous prenez la vidéo et puis vous pouvez regarder ça un jour, deux jours, une semaine après. Il y a vraiment un sentiment d'immersion. Et donc, je pense que ce qu'on est en train d'observer, au-delà juste de ce nouvel ordinateur digital, c'est peut-être la création d'un nouveau type de contenu. Et c'est peut-être ça, en fait, l'innovation. On arrive encore à ces histoires de il faut tester plusieurs choses.
Hein. Ouais, oui.
Mais c'est peut-être ce nouveau type de contenu qu'on va pouvoir consommer, qu'on va pouvoir utiliser, qui va rendre l'expérience incroyable et qui va faire que les gens vont être prêts à acheter ce type d'objet.
Et d'ailleurs, on voit, hein, puisque là, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais Meta a ouvert hein, son Horizon OS à d'autres. Donc il y a Asus, il y a Lenovo, il y a Xbox aussi qui pourrait être intéressé. Donc on voit que peu à peu tout ça est en train de s'ouvrir. On entre dans une bataille du casque.
Ben moi, j'attends de voir. En fait, je suis assez sceptique. Enfin, moi, ça ne me parle pas, en fait, cette technologie. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça ne parle pas, en fait. Parce qu'il y a le fait d'avoir un casque, d'être coupé du monde. Et d'ailleurs, Apple, à chaque fois, il n'y a qu'une seule personne. Dans les démonstrations, il y a toujours une seule personne. Il n'y a jamais une famille qui est avec leur Vision Pro. Donc, voilà, moi, j'attends de voir. Et pourquoi pas, après...
Si on achetait 5,
non, mais, c'est sûr.
Mais c'est une rupture vraiment très importante. Et je pense qu'elle est beaucoup plus importante que la rupture du smartphone, en fait. Et donc, pour l'instant, moi, je suis assez sceptique. J'attends de voir et je ne suis pas sûr que ça va marcher en fait.
Et puis tiens, une petite anecdote, on en a parlé cette semaine aussi, c'est le rachat d'une entreprise française qui s'appelle Dataca Lab, alors qui a pivoté mais qui avait travaillé beaucoup sur la reconnaissance de visage, enfin d'émotions sur le visage, et Apple les a rachetés. Alors la chose est sortie, aurait dû être un peu plus secrète, elle est sortie, ils les ont rachetés en décembre, et là je pense que les brevets, on a beaucoup parlé, les brevets de reconnaissance de visage, on les voit bien intégrés dans l'Apple le Vision Pro, et ça pourrait peut-être être voilà, une killer, enfin une des applications, une des fonctions de ce Vision Pro. Allez, on va marquer une pause, on va retrouver l'économie avec Marjorie Adelson, ce qu'il faut retenir de l'économie aujourd'hui, et puis on va revenir juste après, on va parler de Mistral, le OpenAI français qui envisagerait voilà, de lever encore 500 millions, ce qui valorise déjà l'entreprise 5 milliards sans chiffre. Il y a les ventes, mais voilà, il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de revenus toujours plus importants. Donc on va en reparler. On parlera de la Chine qui dévoile sa nœud cyber, voilà, son Neuralink version chinoise. Et puis la majorité à 15 ans, viable ou pas. C'est Emmanuel Macron qui aimerait ça. Allez, on marque une pause et on se retrouve juste après Journal de l'Écho.